Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série sur l'amour avec un texte du pape Benoît XVI sur une question particulièrement décisive pour les chrétiens. La charité s'oppose-t-elle à la passion amoureuse ? Il est courant en philosophie d'opposer Eros et Agapé, comme on oppose le christianisme et le paganisme. Eros, c'est la passion tournée vers un être beau, de manière charnelle, et qui cherche la jouissance. Agapé, c'est l'attention qui se tourne vers le prochain, même misérable, et cela de manière spirituelle, sans recherche du plaisir. Eros, c'est l'érotisme et l'amour possessif. Agapé, c'est l'Eucharistie et l'amour oblatif. Ils apparaissent donc comme deux contraires. On ne va tout de même pas confondre le lit de l'étreinte avec l'autel du sacrifice. Et pourtant... Pourtant, Benoît XVI, à la suite de Jean-Paul II, insiste pour dire que l'amour divin, la charité, n'abolit pas, mais accomplit l'amour humain. Disons même que l'érotique s'accomplit dans l'eucharistique. Mais écoutons ce texte de notre pape émérite, extrait de l'encyclique Deus Caritas Est, lu par Clotilde Césari.
Le message sur l'amour qui nous est annoncé par la Bible et par la tradition de l'Église a-t-il quelque chose à voir avec l'expérience humaine commune de l'amour ? Ne s'oppose-t-il pas plutôt à elle ? À ce propos, nous avons rencontré deux mots fondamentaux. Eros, comme le terme désignant l'amour mondain, et agapé, comme l'expression qui désigne l'amour fondé sur la foi et modelé par elle. On oppose aussi fréquemment ces deux conceptions en amour ascendant et amour descendant. Il y a d'autres classifications similaires, comme par exemple la distinction entre amour possessif et amour oblatif, amor concupiscentiae et amor benevolentiae, à laquelle on ajoute parfois aussi l'amour qui n'aspire qu'à son profit. Dans le débat philosophique et théologique, ces distinctions ont souvent été radicalisées, jusqu'à les mettre en opposition entre elles. L'amour descendant, oblatif, précisément l'agapé, serait typiquement chrétien. A l'inverse, la culture non chrétienne, surtout la culture grecque, serait caractérisée par l'amour ascendant, possessif et sensuel, c'est-à-dire par l'éros. Si on voulait pousser à l'extrême cette antithèse, l'essence du christianisme serait alors coupée des relations vitales et fondamentales de l'existence humaine et constituerait un monde en soi, à considérer peut-être comme admirable, mais fortement détaché de la complexité de l'existence humaine. En réalité, Eros et Agapé, amour ascendant et amour descendant, ne se laissent jamais séparer complètement l'un de l'autre. Plus ces deux formes d'amour, même dans des dimensions différentes, trouvent leur juste unité dans l'unique réalité de l'amour, plus se réalise la véritable nature de l'amour en général. Même si, initialement, l'éros est surtout sensuel, ascendant, fascination pour la grande promesse de bonheur, lorsqu'il s'approche ensuite de l'autre, il se posera toujours moins de questions sur lui-même. Il cherchera toujours plus le bonheur de l'autre. Il se préoccupera toujours plus de l'autre. Il se donnera et il désirera être pour l'autre. C'est ainsi que le moment de l'agapé s'insère en lui. Sinon, l'éros déchoit et perd aussi sa nature même. D'autre part, l'homme ne peut pas non plus vivre exclusivement dans l'amour oblatif, descendant. Il ne peut pas toujours seulement donner, il doit aussi recevoir. Celui qui veut donner de l'amour doit lui aussi le recevoir comme un don. L'homme peut assurément, comme nous le dit le Seigneur, devenir source d'où sortent des fleuves d'eau vive. Mais pour devenir une telle source, il doit lui-même boire toujours à nouveau à la source première et originaire qui est Jésus-Christ, du cœur transpercé duquel jaillit l'amour de Dieu.
Fabrice Hadjadj, quel est le contexte de ce texte ?
Alors, cette encyclique est la première de Benoît XVI. Elle a été publiée à la demande de Cor Unum, alors un conseil pontifical qui avait pour objet plutôt les actions de miséricorde, de charité, dans l'Église. Conseil pontifical d'ailleurs qui n'existe plus, qui a été intégré dans un autre depuis, enfin dans une congrégation sans doute. Et c'était un texte qui avait été d'une certaine façon ficelé sous le pontificat de Jean-Paul II, à la fin du pontificat de Jean-Paul II. Et le pape Benoît, comme d'ailleurs le pape François, quand il va récupérer l'encyclique Lumen Fidei, hein, Lumière de la foi, qui a été faite d'abord sous le pontificat de Benoît XVI et il devra lui la promulguer, va reprendre le texte. Mais il va faire quelque chose qui est absolument inédit dans ce texte, qui n'était pas dans la version originale. Il va intervenir sur une question majeure, la question qui nous occupe, c'est-à-dire le lien entre Eros et Agapé, entre l'amour passion, l'amour humain et la charité chrétienne. C'est un contexte très particulier parce qu'il y a eu un livre très important d'un certain Anders Nygren, intitulé « Eros et Agapé », qui a fait fureur en son temps, qui justement tendait à séparer Eros et Agapé, à dire que justement ça n'avait rien à voir, l'Eros c'était les païens, c'était la sensualité, et que justement l'Agapé se trouvait comme quelque chose de pur, de surnaturel, donc à partir de là presque on pourrait dire d'antinaturel, et donc il y avait un dépassement complet de l'Eros dans la charité. La charité n'a rien d'érotique, et si tel était le cas, ça se saurait, vous voyez, bon ben... On pourrait dire, nous ne voyons pas de danseuses du Crazy Horse lors des célébrations eucharistiques. Vous voyez, bon, c'est aussi une certaine manière de voir l'érotique. Alors, donc, séparation. Et dans un premier temps, il y a eu des réponses à Nygren, et précisément une réponse de Joseph Pieper dans son traité de l'amour dont nous avons parlé précédemment. Pieper va avoir un chapitre formidable où il va le répondre à Nygren. Ce texte va être lu par Benoît XVI, à n'en pas douter, et il va justement reprendre cette idée qui est absolument fondamentale, parce que derrière ça, c'est de dire quoi ? Reprendre la grande thèse selon laquelle la grâce ne détruit pas la nature. La grande thèse chrétienne que le spirituel ne détruit pas le charnel. La grande thèse chrétienne que la divinisation n'est pas une sortie de l'humanité, mais reste toujours une humanisation plus grande. Parce que Dieu ne nous sauve pas en nous arrachant à notre condition ou à notre nature humaine, mais en se faisant l'un de nous. Donc on voit bien qu'il y a derrière cette articulation, cette distinction bien sûr, hein, entre Eros et Agapé, il ne s'agit pas de les confondre, mais cette distinction pour les unir, pour les articuler, un enjeu fondamental sur l'essence même de la révélation chrétienne. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est dans des pensées de transhumanisme où on croit que devenir un surhomme, c'est sortir de l'humain, que devenir Dieu, c'est muter et s'arracher à notre condition mortelle. Or là, qu'est-ce qu'il nous est dit dans la révélation chrétienne ? Que le vrai Dieu, c'est celui qui s'est fait chair et qui est mort à 33 ans comme un charpentier juif, vous voyez ? Bon, c'est étonnant, vous voyez ? Donc, il y a ce rappel que la grâce vient ressaisir la nature et que la charité n'abolit pas l'érotisme, on pourrait dire, mais il faut bien entendre ce mot.
Fabrice Adjadj, en français, nous n'avons que ce mot « aimer ». Pourriez-vous préciser la distinction qu'il existe entre « eros » et « agapé », particulièrement lorsqu'on entend « amour ascendant » et « amour descendant » ?
Oui, alors c'est très curieux, parce qu'on pourrait se dire que non, c'est la charité qui est l'amour ascendant, parce qu'elle nous élève vers Dieu. Et l'Eros, c'est un amour descendant, puisqu'il nous ferait aller, je ne sais pas, peut-être vers la bête. Bon. Or, ce n'est pas du tout la pensée des anciens. Pourquoi est-ce qu'on parle d'amour ascendant à propos d'Eros ? C'est qu'on fait référence à Platon. Platon qui, dans le Banquet, nous dit que l'amour est l'amour du beau. Et d'abord, on aime les beaux corps, ou un beau corps, puis après les beaux corps, puis après les belles actions accomplies par ces corps, les belles pensées, et petit à petit, l'amour va s'élever vers le beau divin. Et donc, c'est un amour où on part de la terre, d'une certaine façon, pour s'élever vers le ciel. Et c'est ascendant parce que ça veut dire que le principe de cet amour, ce sont les forces de l'homme. C'est l'intelligence humaine, c'est la volonté humaine, c'est la sensibilité humaine. Quand on est dans l'ordre de la révélation, c'est autre chose, puisque c'est Dieu qui descend vers nous. Donc vous voyez, quand on parle de la charité, on parle d'un amour descendant. Ce n'est pas nous qui, par nos forces, nous élevons vers Dieu, comme une tour de Babel. C'est exactement l'inverse. Dieu est descendu dans la crèche de Bethléem, au plus bas, entre la bouse et le crottin, et c'est sur la paille. Et donc c'est une descente. C'est une descente d'abord. Et la charité, elle descend précisément parce qu'elle est plus haute, parce qu'elle vient d'en haut. C'est un amour qui vient d'en haut. C'est pour cela qu'on parle de descente de Dieu vers l'homme, de don de Dieu à l'homme, qui nous fait participer à son amour. Et on voit ici ce que dit le pape François, le pape Benoît, c'est que l'image qu'il prend, c'est qu'il y a un amour qui monte vers Dieu, mais cet amour est immédiatement ressaisi par Dieu qui descend vers lui. C'est ça le type d'articulation qu'il cherche. Ce n'est pas deux choses qui sont sur le même plan, et donc même qui seraient en relation de contrariété. Ce sont des choses qui sont de deux ordres différents, avec deux mouvements différents. L'un qui monte, l'autre qui descend, mais surtout l'un qui n'est pas en concurrence avec l'autre. On retrouve cette idée, à mon avis, fondamentale encore, mais qu'on a déjà suggérée au début de cet entretien, c'est que il n'y a pas de concurrence entre le Créateur et la créature. Sinon, il ne serait pas le Créateur. Et si Dieu nous dit « tu dois m'aimer, mais alors tu ne dois pas aimer les créatures », c'est comme si un poète vous disait « tu dois m'aimer, mais tu ne dois pas lire mes poèmes ». Enfin, ça n'a aucun sens. Donc on voit bien que lorsque Dieu nous communique son amour, ça ne peut venir que fortifier, purifier, surélever l'amour des créatures, l'amour humain, et le réordonner dans le bon sens. Donc c'est un amour qui descend pour venir nous chercher et qui nous élève, pas par nos propres forces, donc il y aura un second mouvement ascendant, mais qui vient d'abord de Dieu.
Fabrice Adjadj, si Agapé et Eros ne se laissent jamais totalement séparer, qu'est-ce qu'il faut penser de ce qu'on appelle l'amour gratuit, qui n'attendrait aucun retour et qui ne serait que dans un don, qui ne serait qu'un amour oblatif?
Oui, alors c'est ça qui va faire peut-être la grande opposition habituelle, hein, c'est de dire que Dans Eros, malgré tout, il y a un désir de prendre et pas seulement de donner. Il y a un désir de jouissance et pas seulement, on pourrait dire, la dimension de martyr, de sacrificiel. Alors ça aboutit à deux questions, à mon avis, majeures. Et d'ailleurs, le pape Benoît le dit dans ce texte. Il dit que ça n'est pas vrai que Eros soit seulement quelque chose qui capte l'autre, qui veut s'en emparer. Il y a une ambivalence dans Eros qu'avait très bien montré Emmanuel Lévinas, c'est que, bien sûr qu'on veut peut-être jouir de l'autre, mais on veut en même temps que l'autre soit l'autre. On ne veut pas jouir d'une chose. Si l'autre devient une pure chose, à ce moment-là, on n'est plus dans l'érotique. Donc il y a une ambiguïté d'Eros qui veut, on pourrait dire, la jouissance, c'est ramener à soi, oui, mais c'est une jouissance avec l'autre, pour l'autre, avec en plus, normalement, une fécondité qui fait qu'un autre va naître de cette union. Donc, vous voyez, il y a toujours ce décentrement qui se joue à travers Eros. On n'est pas simplement tourné vers soi-même. Et cela, même Platon l'avait montré. Il dit même que, chez les bêtes, lorsque la saison des amours les prend, elles sont comme arrachées à elles-mêmes. L'idée, c'est pas qu'elle ramène c'est pas ramener à soi, c'est que même la bête n'est pas du tout ce qu'on appellerait bestiale, dévoratrice, prédatrice dans ses élans sexuels que les anciens voyaient comme des élans d'amour, hein, parce qu'il y a de l'amour partout dans la nature. Mais au contraire, elle est comme hors d'elle-même, puisque le mouvement, c'est le mouvement de faire advenir la génération suivante, d'aller vers l'autre sexe, d'aller vers la femelle, pour que la femelle elle-même aussi devienne hors d'elle-même, puisqu'elle va porter en elle un autre petit. Donc l'image généralement de l'éros est quand même une image plutôt extatique, où on sort de soi. La deuxième chose, c'est de dire, est-ce que la charité n'est que négation de soi, Est-ce qu'on pourrait le dire dans l'autre sens? Le problème pourrait se poser dans l'autre sens. Alors, quand je suis dans l'amour, je pense aux autres, je ne pense plus à moi-même, et même je suis altruiste, donc je n'ai plus d'égoïsme, etc. Bon, tous ces tartes à la crème, vous savez, ces oppositions absolument stériles. Or, la vérité, d'une part, c'est que le commandement, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Alors, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer son prochain. La charité commande d'abord l'amour de soi, avant l'amour d'autrui. L'ordre de la charité, c'est l'amour de Dieu, parce que de toute façon, pour m'aimer moi-même, il faut bien que j'aime la source de mon être. Bon, secondairement, moi-même, parce que je ne peux pas aimer autrui si je n'aime pas la vie en moi. Oui, si tout d'un coup, en moi, j'ai une sorte de... Il y a une pente suicidaire. On peut imaginer d'ailleurs des gens qui se détestent tellement qu'ils vont monter en première ligne, aller dans des choses dangereuses, secourir les autres. Mais au fond, ce qu'il y a derrière, c'est prendre des risques parce qu'ils ne s'aiment pas, parce qu'ils veulent fuir leur propre identité, leur propre personnalité. Ben, au bout du compte, c'est quelque chose qui va se sentir, cette haine de soi. Le premier lieu où la vie m'est donnée, c'est ma propre vie. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne m'aime pas moi-même, puisque je suis sa créature. Et je ne peux pas dire que j'aime mon prochain si je ne m'aime pas moi-même, puisque je suis la première créature qu'il m'a donnée à aimer, voilà, d'une certaine façon. Donc, c'est absurde d'opposer la charité envers autrui ou de croire qu'elle est seulement oblative. Et non, il y a l'amour de soi qui fait entièrement partie de l'amour du prochain. Et vous voyez, les trois amours qui sont semblables, l'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour du prochain, parce qu'ils sont intimement liés, grandissent ensemble. Ça signifie d'ailleurs que dans la charité, souvent on parle des combats que l'on mène pour aimer les autres. Et la lutte, c'est la grande lutte contre l'égoïsme. En fait, oui, il y a une lutte contre l'amour propre. Mais l'amour propre, c'est le contraire de l'amour de soi. Déjà, Rousseau le disait, mais on peut aller encore plus loin. Il y a des combats terribles pour s'aimer soi-même. Regardez aujourd'hui. Hein. La plupart des personnes qui vivent des drames, qui ne savent plus où ils en sont, de leur orientation sexuelle, de leur sexe, du monde d'aujourd'hui, qui sont marquées par une dépression ambiante, ces personnes ont du mal à s'aimer elles-mêmes. Et elles doivent se dire, elles doivent retrouver cet amour de Dieu qui leur dit « Aie confiance, tu n'as pas été créé pour rien, tu as une mission sur cette terre avec ce corps que tu as, avec cette histoire que tu as, si troublée soit-elle. Tu peux t'aimer, tu dois t'aimer. » Oui, non pas t'aimer comme l'amour propre, toi-même à partir de toi-même, mais toi-même à partir du dessein mystérieux qui repose sur toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu n'y comprends rien, parce que le dessein est mystérieux. Donc, voilà, ça c'est un point fondamental. Il y a dans la charité un amour de soi, c'est pas une négation de soi. Et en plus, cet amour doit fleurir dans la grâce, c'est-à-dire que même s'il contient une dimension sacrificielle, il est en vue de la communion et il est en vue de la béatitude. Donc il y a encore, on pourrait dire, une joie, une jouissance. Les chrétiens aiment jouir, hein. Simplement, ils aiment tellement jouir que ce qu'ils veulent ultimement, c'est jouir de Dieu. Et même dès ici-bas, dans les moindres choses, les voir comme Dieu les voit, c'est-à-dire avec au centuple, d'une certaine façon.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, la charité s'oppose-t-elle à la passion amoureuse ? Fabrice Hadjadj, Benoît XVI ira même jusqu'à dire qu'il y a la dynamique interne de l'éros est une dynamique vertueuse. À l'inverse, quand on coupe cette dynamique de l'éros et que l'on se renferme sur soi, il y a un risque de vice, de créer entre chrétiens un monde en soi.
Oui, alors il y a deux problèmes là ici. Il y a l'idée d'une charité qui serait purement spirituelle, qui serait en dehors des affaires humaines. Alors oui, il y a les gens qui se vautrent dans la boue, l'homme et la femme qui couchent ensemble, etc. Ça, c'est tout un monde qu'on va peut-être même laisser aux démons, qu'on va laisser à la pornographie, qu'on va laisser à toutes les errances. Ben non, En fait, la charité est là pour pénétrer cet amour, pour l'irriguer. Si tout d'un coup, et puis de l'autre côté, imaginez ce pur spiritualisme désincarné, il est absolument effrayant. Enfin, je veux dire, en tout cas, moi, il ne m'attire pas du tout. Donc, il faut retrouver ce christianisme qui est à la fois charnel et pur, comme disait Charles Péguy. De l'autre côté, il y a aussi la possibilité d'un héros qui ne s'accomplit pas lui-même s'il ne s'ouvre pas à la charité. On pourrait dire, mais quel est le rapport? J'aime une fille. Bon, quel rapport avec le Christ? Je suis tombé amoureux d'une fille dans la rue, je l'ai croisée. Quel rapport avec le Christ? Rien à voir avec le Christ. On va dire que l'amour de Jennifer implique nécessairement l'amour du Christ. Or, le pape Benoît dit oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, je veux reprendre un texte d'un grand penseur, prêtre, fondateur du mouvement Communion et Libération en Italie, à savoir Don Luigi Giussani, qui aimait beaucoup Joseph Ratzinger. Il a même prononcé une homélie à ses funérailles. Et Giussani, qui parlait à des jeunes, il a cette phrase extraordinaire. Il dit... Je vous lis tout un passage. « Mon ami, la fille que tu aimes, elle est faite de quoi ? Elle n'est pas faite de polenta, elle n'est pas faite de cendre, elle n'est pas faite d'or. Imagine, j'aime une fille qui est toute en or. Mon Dieu, même si elle était en platine, qu'est-ce que ça vaudrait ? Mais non, il y a un autre monde d'où procède le monde dans lequel nous vivons. » Un autre monde à partir duquel nous sommes des hommes et qui est source de bonheur et de paix, source d'attractivité et de créativité. Et vivre, c'est entrer dans ce monde réel où les choses deviennent 100 fois plus belles. Et 100 fois plus belles, c'est la promesse de dire « celui qui aura abandonné ceci ou cela aura bien sûr la vie éternelle, mais il aura dès ici-bas le centuple ». Vous voyez, ça devient dès ici-bas 100 fois plus beau, hein. c'est pas pour après seulement. Mais on aura le centuple avec des persécutions, c'est précisé comme ça. Ainsi, la fille que tu aimes est faite d'un autre, elle est faite du Christ. Et à ce moment-là, il reprend la parole de Paul aux Colossiens, tout subsiste en lui. C'est-à-dire, les choses n'ont de consistance qu'en lui. Il va dire, les montagnes, les arbres et le corps de cette fille sont faits d'un autre, car seule, elle ne serait rien, rien. Donc d'abord, l'affirmation que, voilà, d'où vient-elle? Elle est créée, elle est sauvée, elle a été même par une providence amenée devant toi par le Christ. Et maintenant, si tu l'aimes, qu'est-ce qui va se passer? Alors écoutez la suite, c'est très fort. Hein, qui te l'a fait trouver cette fille? C'est le Seigneur du temps qui est maître du temps, le Seigneur de l'histoire. Qui te la donne pour toujours? Celui qui assure l'éternité de la relation sans laquelle soit on n'y pense pas et on est un imbécile, soit on meurt, on étouffe. Parce qu'une relation avec un être aimé, si vous imaginez qu'elle se termine, cette fin devient comme un mur devant votre figure, un mur qui s'approche de plus en plus de votre figure jusqu'à vous étouffer. Elle étouffe cette présence, c'est un désespoir. Vous voyez, dire que je t'aime, comme le disait Gabriel Marcel, ça veut dire que je veux que tu vives. Et tout d'un coup, si tout cela est voué à rien, à la mort... Pas simplement d'ailleurs la mort physique, hein, parce que souvent on dit, bah oui, c'est bien d'aimer un être éphémère, mais la mort morale, la mort spirituelle, parce que l'amour est aussi pris dans les défaites de tous les jours, les mépris de tous les jours, les négations de tous les jours. Mais si je ne suis pas capable de traverser ça, s'il n'y a pas la grâce du pardon, s'il n'y a pas la grâce de la vie qui traverse la mort, à ce moment-là, la relation érotique s'étouffe. Et au lieu de s'ouvrir comme amour de l'autre et don de la vie, que va devenir cette relation érotique? Eh bien, elle va être fuite devant l'angoisse de la mort. Exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce qui est, même pour les autres animaux, don de la vie, engendrement, devient au contraire friction des muqueuses pour s'oublier soi-même, oublier que ça ne va pas, et alors on essaye de se débarrasser de son angoisse sur le corps de l'autre, qui essaye de se débarrasser de son angoisse sur notre corps, et puis cette angoisse nous revient tout le temps à la figure. Donc vous voyez, c'est donc qu'il doit y avoir un lien entre cet amour humain et cet amour divin, parce que c'est l'amour divin qui sauve l'amour humain.
Merci Fabrice Hadjadj pour cette très belle citation et ce texte de Giussani. Mais alors, si il y a une origine divine à l'amour humain et une finalité presque divine à l'amour humain, quelle était la part d'Eros dans l'incarnation du Christ?
Oui, alors c'est la question qu'on pourrait poser. On pourrait dire que le Christ, ben, voilà, il a été dans la chasteté, la continence parfaite, il n'a pas eu de femme. Mais vous comprenez, c'est parce que le Christ est l'époux de tous. Alors, c'est ça le problème. Et que d'abord, cette polarité n'est pas d'abord une polarité qui, avec lui, puisqu'il est Dieu, implique nécessairement la fécondité sexuelle. Donc vous voyez, quand on essaye d'inventer cette idée que le Christ est allé avec Marie-Madeleine et qu'il a une épouse, il ne faut pas dire ça, il faut dire à Dan Brown, qui a raconté cette histoire dans le Da Vinci Code, hein, il épouse Marie-Madeleine, je veux dire, non, le Christ, cher Dan Brown, t'a aussi épousé toi, il a épousé aussi ton âme. Et donc, il ne faut jamais oublier que l'homme est un, que le Christ est un homme et que cet homme a épousé une femme qui est toute l'Église. Mais là, on entre dans un éros, qui va être d'ailleurs au cœur de la vie mystique de l'Église, ben voilà, qui nous transporte avec notre corps, avec notre chair, mais au-delà de la simple sexualité.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Benoît XVI, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé, Clotilde Césari à la lecture et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.